Et oui, c'est le Rock à Joe qui commence et qui succède à l'immensissime Martha qui accueille des adolescents. On se pose des petites questions par rapport à ça. Heureusement, elle a remis les pendules à l'heure et tout va bien. Nous sommes rassurés sur la moralité de Martha, que nous avons toujours considérée comme quelqu'un d'exemplaire de toute manière. Nous avons ce soir à la technique l'immense également et incontournable Nico. Dans toute son élégance, voilà, toute sa sobriété élégante. Il sera parfois remplacé par Bruno, que nous aimons beaucoup également. Nous aimons également beaucoup Madame Plaza, que nous saluons et qui nous écoute depuis Lunel. Et nous aimons bien sûr avant tout nos invités, sans lesquels il n'y aurait pas d'émission. Les invités ce soir, c'est à ma gauche Matt Conture. Salut Matt.
Salut Jacques.
Dessinateur, salut, poète, paysan, écrivain et gratouilleur fou. Et à ma droite, Sandra, qui fait partie du même collectif que Matt, et on aura l'occasion d'en parler au cours de l'émission. Salut Sandra.
Bonsoir Jacques.
Donc voilà, on se retrouve avec Matt Conture un an après, grosso modo. On avait fait une première émission, on avait parlé de Crumb. Tu m'avais beaucoup éclairé la lanterne d'ailleurs, parce que j'étais quand même relativement ignorant par rapport à la chose. Beaucoup de choses à dire par rapport à toi. Bon, c'est vrai que c'est quand même principalement la BD, mais à côté de ça, il y a également la musique qui tient une part énorme dans ta vie.
Ouais.
Et d'une part avec ton groupe, Courge,
ouais,
qui a été Les Courges, et puis Courge avec un S, et puis Courge sans S, on ne sait plus trop à quel sens se vouer, mais en tout cas, il reste quand même le terme de Courge là-dedans. Et également en tant qu'assistant au concert, où je crois, je l'avais dit la dernière fois, où là on te voit bondir, t'accrocher au plafond, te suspendre, grimper au mur, et dans ton enthousiasme, en particulier pour les musiques, quand même la plupart du temps, plutôt tendance, disons, garage, lofi, punk. On aura l'occasion de reparler de tout ça. Et tu viens bien sûr, comme d'habitude, avec une liste, et cette liste, c'est la tienne. Donc on va attaquer bille en tête, allez,
ouais,
avec un petit peu de musique, et après on causera. Donc tu nous proposes quoi en premier ?
Eh bien, en premier, c'est Edouard, c'est le groupe Noise de Amiens, sur lequel j'ai particulièrement flashé depuis quelques années, et qui sont devenus depuis mes grands amis, Edouard, avec un morceau de leur 33 tours. Le morceau s'appelle Sick Mister.
On en voit.
Yeah!
Édouard, qui n'est pas Édouard aux mains d'argent, mais Édouard qu'on a eu le plaisir de voir aux Méchantes Bêtes, ce qui nous permet de rappeler que demain soir, à partir de 20h, il y a un concert exceptionnel aux Méchantes Bêtes. C'est la rue du Plan de l'Olivier, c'est à 20h, soyez précis, car ça doit démarrer à 20h précises, et ça finira à 22h précises. Je laisse à Matt le soin de prononcer le nom de la dame en question.
Marie-Claire Britsva.
Alors donc, qui est quelqu'un qui fait partie de la tendance très avant-gardiste quand même musicale de la scène musicale. Et quelqu'un qui a fait des collaborations, je crois, avec Fritz Zorn en particulier, ouais. Des gens comme ça.
Avec Fred Fries et John Zorn.
Pardon, ouais, j'ai mélangé les deux.
Ouais, la scène avant-gardiste new-yorkaise. Ouais.
Mais quelque chose d'assez rare quand même, il faut en profiter. Surtout qu'après ça, il vous faudra courir au Mojomatic pour la sortie de la compile Head Records avec, je vous rappelle, un prix d'entrée dérisoire de 5 euros qui vous donnera droit également à un CD quand vous rentrerez. La vie est belle. Et puis après ça, vous pourrez éventuellement, si vous avez le courage, courir à la pleine lune pour aller voir notre camarade Joe Romano qui mixe jusqu'à 1h du matin. Pour l'instant, nous restons avec Matt Conture, avec Sandra. Et Matt Conture et Sandra, nous en parlions tout à l'heure, c'est l'atelier.
Oui, ben notre atelier, il s'appelle Entrée libre, en trois mots. Entrée comme des traits, puisque nous sommes des dessinateurs, peintres, illustrateurs. Il y a aussi dans le lot un peu de photos, un peu d'écriture, mais... C'est un lieu qui est une galerie et qui nous sert de lieu de travail pour peindre et pour dessiner. On a nos bureaux au milieu des pièces de cette galerie avec deux vitrines en centre-ville. C'est situé au-dessus de Sainte-Anne. C'est juste derrière le bar Le Rebuffy, pour ceux qui connaissent.
On peut donner l'adresse éventuellement. Je ne pense pas que vous soyez contre des gens qui souhaitent intéresser et qui passent.
Le principe, c'est que c'est entrée libre. Donc, les gens peuvent passer, voir les peintures et puis nous voir travailler en même temps, nous poser les questions qu'ils veulent et tout. Et c'est aux 2 rue du Bail que ça se situe.
Voilà. Donc juste derrière le Rebuffy. Le Rebuffy, il suffit de remonter la rue Foch et vous le trouvez à gauche avec ses petits lampions. C'est pas difficile à trouver. 2 rue Bail. Donc ça, c'est vous le partagez. Vous êtes quand même 13, je crois, là-dedans, ce qui fait quand même pas mal de monde.
Ouais. 13 colocataires, mais on n'est jamais 13 à travailler en même temps là-dedans. Mais...
Dieu soit loué. Et vous arrivez à bosser entre les... Je veux dire, en imaginant que vous vous retrouvez, je ne sais pas combien, la plupart du temps à 3 ou 4 ou un truc comme ça.
Ouais.
Bon, déjà, la tentation de discuter, premièrement. Deuxièmement, les gens qui passent aussi, les copains, les trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est très bon pour le boulot?
Disons que c'est bon dans la mesure où... On trouve ça plus agréable à vivre de passer une journée là que de passer une journée seul chez soi avec son bureau comme seule compagnie. Voilà. Du coup, on est là plus souvent. Moi, je me régale à être là à mon bureau à dessiner et puis qu'il y ait du va-et-vient sans arrêt autour. Des gens qui passent. Moi, ça ne m'empêche absolument pas de dessiner.
Tu te fies une discipline un peu par rapport à ça, c'est-à-dire de venir certains jours, de telle heure à telle heure, ou c'est
franchement, non. Il n'y a aucun horaire pour qui que ce soit de l'atelier, d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Personne ne se contraint à être là à telle ou telle heure. Hein.
Bon, 25 ans de BD derrière toi, et t'es toujours dans l'innovation, quand même, un petit peu, toujours à chercher des solutions assez souvent associatives, quand même, et à rentrer dans des collectifs, à rentrer dans des magazines, dans des fanzines plutôt, la plupart du temps. Le fanzine s'arrête, tu repars sur un autre truc, tu repars sur un projet. Alors, un projet qui, en ce moment, c'est par exemple le film... que Choc Corridor Francis, que nous avons eu le plaisir de voir l'émission et qui nous en a parlé d'ailleurs, est en train de tourner sur toi en ce moment-là.
Ouais.
Et qui va bientôt se finaliser.
Oui, bah, il est encore en cours de tournage. Bah, par exemple, la semaine dernière, ils m'ont accompagné, Francis et son caméraman et le preneur de son, pour un festival qui a eu lieu à Sierre, en Suisse, où on a fêté les 20 ans de ma maison d'édition, l'association, avec une exposition. Et pour eux, ça a été l'occasion de parler avec Bapakom Thielman. C'est un personnage que j'ai connu, moi, comme étant le plus jeune éditeur de fanzine en France. Je l'ai connu quand il avait 12 ans, 13 ans. Et à ce moment-là, il éditait son fanzine réciproquement, pour lequel j'ai créé un de mes personnages, Galopu. Et Bapakom, il était là et il parlait avec Julie Doucet, qui, elle, est une Québécoise, qui a le même âge que moi, que nous. On est vraiment la même génération. Et puis,
on et qui participait au Psychopathe aussi à l'époque, Julie Doucet, il me semble.
Ouais. Et notre point commun, outre le même âge, c'est que... bon. Il y en a plusieurs, en fait. C'est que tous les deux, on fait des dessins avec des hachures. Et puis, il y a un rapport avec, avec l'auto... disons qu'elle, ce n'est pas vraiment de l'autobiographie qu'elle fait, c'est plutôt de l'auto-fiction, parce qu'elle utilise sa personne comme personnage. Mais ce qu'elle raconte, c'est plutôt des fictions. Tandis que moi, à l'inverse, au même moment qu'elle... je commençais à faire des choses d'inspiration clairement autobiographique, mais en revanche, je me planquais encore derrière les masques de mes personnages fictifs. Donc les histoires étaient réelles, mais les personnages voilà, étaient des camouflages. Tandis qu'elle, c'était elle qu'elle dessinait. Bon, c'est pas du dessin réaliste, hein, Julie Doucet, c'est plutôt... du dessin semi-réaliste, comics underground.
Mais j'aimais bien Julie Doucet, en tout cas.
Bah ouais.
Point de vue personnel.
Mais alors là, on lui a demandé un dessin pour un de nos fanzines qu'on faisait. Là, comme on se retrouve dans des festivals comme ça avec des copains dessinateurs, à chaque fois, on passe notre temps à dessiner, à faire des pages collectives. Donc on lui a passé les pages en lui demandant de dessiner, et puis elle nous a écrit dessus sur la page « Oh, je ne sais plus dessiner, je ne dessine plus ». Donc elle est en phase où elle ne dessine plus, où elle se tourne plus vers l'écriture, Julie Doucet.
Oui, ça aura le temps de changer éventuellement après.
Ouais.
Tu disais que tu te cachais un petit peu derrière tes personnages, et moi j'ai plutôt l'impression,
bah, au début, oui.
tu me diras, mais plutôt l'impression que c'est un peu des parts de toi aussi qui expriment,
oui,
différentes,
voilà,
parties de toi.
Ouais.
Si on prend les trois principaux, il y a quand même Yvan Morve, bon, qui est le récurrent, le plus, peut-être le plus intéressant parce que le plus méchant. Et le plus taciturne, ouais. Mais enfin, quelqu'un qui a des difficultés et qui, à partir de là, réagit quand même souvent de manière un peu intéressante.
Mmh. Voilà.
Et à côté de ça, bon, c'est vrai qu'il y a Monsieur Vrault aussi, qui, lui, c'est tout le trip quand même, qui est beaucoup plus positif, on pourrait dire, dans la vie, quoi. Plus heureux de vivre, dans la création un petit peu. Et Galopu, qui exprime, qu'est-ce qu'il exprime, Galopu?
Galopu, en fait, il se trouve que c'est après la création des personnages que je me suis rendu compte que chacun d'entre eux correspondait à une saison. Galopu, lui, il correspond vraiment au printemps. Il a un esprit complètement enfantin et il surgit dans la vie comme ça, d'un pas hardi. Joyeux, mais en même temps enfantin, pas tant que ça, parce qu'il a un grand nez et son grand nez, ça ressemble aussi à...
un grand sexe.
Ouais, voilà. Et puis il a des grosses lèvres et tout, mais bon. Du coup, il est très gourmand de la vie. Bon, c'est l'incarnation du printemps, ça je m'en suis rendu compte après, comme Yvan Morve peut être celle de l'automne, hiver. Et Mr. Vrault, c'est l'été, quoi. C'est l'espèce d'extase. C'est un personnage complètement solaire, là, avec ses cheveux jaunes, et ses yeux en spirale. C'est l'extase psychédélique. Et estival, c'est l'été, voilà, il trône dans le ciel comme ça, comme le soleil. En même temps, c'est un peu vertigineux, c'est proche du vide. On ne sait pas si c'est le grand tout, le grand rien, plus rien. Quoi.
Ouais, mais c'est ça fait tout ça partie de toi un peu. Quand
ouais, bien sûr.
Tous ces trucs-là, tantôt tu pourrais être comme ci, tantôt
voilà,
comme ça.
C'est des facettes.
Ça,
voilà,
ça correspond un peu. J'ai du mal à comprendre ce truc de se planquer derrière, comme tu disais
non, mais
tout à l'heure.
Non. C'est au début. Pour Yvan Morve, j'utilisais dans Le Psychopathe, je racontais des choses qui m'arrivaient en vrai, mais je ne voulais pas les raconter avec moi-même. Mmh. Je n'avais pas envie de me représenter dans un journal qui était vendu en kiosque et tout. Et du coup, je le faisais à travers d'un personnage de fiction. Voilà. Et c'était un peu pareil avec Galopu. Moi, je préfère me baser sur des choses que je vis parce que. J'ai l'impression de mieux les cerner, de mieux les comprendre, et que du coup le lecteur peut mieux les comprendre et s'y retrouver aussi.
Parce que, bon, il faut le préciser, c'est vrai que tu fais partie de ce mouvement de cela depuis un bon moment, tu en as même été précurseur
ouais.
De cette tendance à l'autobiographie, c'est-à-dire à raconter, à prendre des éléments de sa vie, que ce soit des éléments familiaux, des éléments amoureux, ouais. des éléments anecdotiques certaines fois, et à partir de là, pour tes BD.
Bah, j'en ai été précurseur pour ma génération, et j'avais pas tellement conscience de ce qui s'était fait aux États-Unis. Je connaissais pas tellement le underground américain et je connaissais juste un petit peu d'autobiographie dans les auteurs en France. Il y avait, tu sais, dans les années 70, il y a eu quelques auteurs qui sont représentés, qui sont dessinés, qui sont mis en scène plus ou moins, mais c'était plutôt des fictions, de l'autofiction. Et c'était pas tellement développé, à part peut-être Baudouin, qui d'ailleurs, depuis que Futuropolis s'est arrêté, a continué avec notre maison d'édition, ouais. L'association. Lui, c'est vraiment l'ancien dans ce domaine-là de l'autobiographie, enfin de ce qui est de raconter les choses selon ce qu'il a vécu, quoi. C'est lui quand même le précurseur et celui qui allait vraiment...
Et Caro peut-être aussi à l'époque un peu, non?
Ah non, Caro il faisait pas de l'autobio. Lui, il me marquait énormément, mais parce que il avait un univers graphique directement inspiré par les films expressionnistes. Et moi, ça, en tant que jeune punk, j'étais très sensible à ça, voilà.
On en reparlera un tout petit peu, on va développer tout ça après. On va passer un peu de musique là, et le deuxième morceau que tu as...
Ah oui, alors c'est Reverend Bitman, et le morceau s'appelle...
Alors bien sûr, c'est de la FM, là encore.
Vous allez, Reverend Bitman, c'est un gars en Suisse qui faisait un groupe qui s'appelait les Monsters, qui était du garage trash avec sa voix de hurleur, là, mais... Là, maintenant, c'est relativement plus...
consensuel, presque.
Ouais, enfin bon, en même temps, c'est chaud. C'est un one-man band aussi. Hein. Il joue, enfin, quand il joue en concert, là, pour le disque, il est peut-être accompagné. Mais, par exemple, il avait joué ici, là, au Subsonic, en one-man band, quoi. Et donc, ça fait partie de ces one-man bands blues-punk, un peu, voilà.
Attends, il y a les mains de Nico qui commencent à trembler là, depuis qu'il attend le pauvre qu'on lui donne le top départ. Top départ, Nico, tu peux lancer le disque, merci. Take a step to the left. Your head to the wall. Let your blood run cold. Now do the Jesus Christ. Et ça continue avec Matt Conture toujours et la charmante Sandra qui est là et les deux, je vous raconte pas, à part quand ils sont en train de parler, passent leur temps bien sûr à dessiner comme s'ils étaient en train de téléphoner. Mais ils ne sont pas en train de téléphoner. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre n'a de... Ah si, il y en a une qui est un portable, je crois. Parce qu'on parlait de ça à l'instant aussi, question d'éducation et puis question de mentalité également. Matt est quand même dans le refus de la télé, de l'ordinateur, du portable. Tu fonctionnes toujours avec un fixe,
ouais.
Ce qui est fort agréable, ça je dois le reconnaître.
Ah bon.
Parce que les... ah ben oui, parce que les... excuse-moi, mais la force d'appeler des portables, tu vois, il te faut des forfaits de 2 heures, de 3 ouais. heures, de 4 heures, ça devient abominable. Quoi. Et ça, c'est vraiment un... quelque chose d'ancré chez toi un petit peu ce
ouais mais bon je sais pas après ouais non c'est plutôt que je suis pas tellement pro consommation moi j'ai rien contre le progrès en soi mais plutôt ouais contre le principe contre le système consumériste voilà c'est je me dis que tant qu'on a des choses qui fonctionnent, on n'a pas de raison véritable de changer d'équipement. Et les changements d'équipement, souvent, c'est une espèce de... je sais pas, il faut que les marques qui lancent les nouveaux produits arrivent à convaincre les gens. Je dirais pas que c'est... c'est une propagande, je ne sais pas comment ça fonctionne, moi. Mais moi, en tout cas, j'y suis complètement imperméable.
Il y a une partie foutage de gueule, quoi, un peu, tu veux dire. De complètement créer indifférent. Le besoin un bah peu ouais. chez les gens pour les faire consommer, les faire bah acheter ouais. et tout ça. Y compris sur des choses... je ne sais pas, c'est un peu... Bon, je sais très bien que sur le dernier CD que tu avais, il y avait un truc que, par rapport aux voitures. La voiture, quand tu vas en Suisse, quand tu vas à Paris, quand tu... etc. Bon, tu vas me dire que tu prends le train.
Ouais, c'est vrai, ouais.
D'accord.
En Suisse...
Mais ça t'arrive de prendre des voitures, quand même.
J'ai pris la voiture, là. J'ai pris juste le funiculaire et j'y suis allé en train. Je ne suis pas monté une seule fois dans une voiture pour y aller.
Le funiculaire jusqu'à la Suisse?
Non, pour aller de l'hôtel au festival, ouais.
D'accord.
Mais non, mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on a pris une voiture pour aller au festival... au Ground Zero, là, à Lyon, bah, avec le groupe, ça nous est revenu tellement cher, la location, parce qu'on n'a pas de voiture vraiment utilisable pour des longs trajets et tout ça. Du coup, on s'est dit, ouais, si on loue...
Mais tu as ton permis ?
Non, moi, je ne l'ai pas. Et en fait, ça nous est revenu tellement cher, ils n'ont pas pu nous défrayer intégralement, comme ils avaient dit au départ. Ils nous avaient dit, ouais, ça, c'est votre argent, le bénéfice de la soirée, et puis on vous défraiera en plus. Puis pour finir, non, ce n'était pas en plus qu'ils nous défrayaient.
Bon. Alors, tu me réponds oui, non. Micro-ondes.
De quoi ?
Micro-ondes. Non, bien sûr.
Ah, bah non.
Frigo.
Oh, bah oui, j'ai un frigo. Ouais.
Gazinière.
En ce moment, non, j'ai plus de gazinière.
Allez, comment tu fais la bouffe ?
Oh, bah j'ai récupéré. C'est Bertrand, il m'a filé une plaque, de nouveau. À un moment, j'avais jeté ma plaque, carrément. Et puis, finalement, là, j'ai de nouveau une plaque parce que ça m'embête d'aller chercher une bouteille de gaz.
ça je conçois. Cafetière
Non, j'ai pas ça non plus. Ouais.
Aspirateur, on n'en parle pas. Il y a le bon vieux balai qui est là. Ouais. Bon, tout ça, c'est d'une part, bon, il y a quand même certainement des questions d'éducation un peu, oui, d'avoir été habitué comme ça dans ta jeunesse, mais aussi quand même une réflexion qui t'a mené quand même à t'engager un peu sur un plan écolo. Là. Depuis un certain temps.
Ouais. Ben, le départ de ça, ça a été que j'étais employé comme dessinateur, illustrateur pour une petite revue quoi, qui s'appelait Passerelle Éco, que Jean-Luc faisait, qui fait toujours d'ailleurs.
Qui remontait il y a 10 ans à peu près.
Et lui, il habitait là, à Figueroles, à Montpellier. Au-dessus du repas latin. Et par contre, maintenant, il n'est plus là. Alors, j'ai perdu un peu le contact avec ce réseau-là. Tu vois, lui, il m'emmenait dans des ateliers de construction de fours solaires, de jardins, de toutes sortes de choses comme ça. Et j'étais vraiment dans ce bain-là. Et depuis qu'il est parti, j'ai l'impression d'avoir coupé un peu les ponts quand même avec ce...
Tu continues quand même sur des choses très très simples.
Ah bah moi, dans mon mode de vie, je fais attention à ça.
Des choses évidentes quand même. Mm-hmm. Tu nous envoies un peu de musique, Colo ?
Ben oui, alors on peut écouter les Magnetix. C'est le groupe de Bordeaux, de garage punk, maintenant assez connu quand même. Et le morceau s'appelle Mort Clinique.
Je n'ai pas besoin de ton aide. mort clinique.
Nico est toujours le technique et royalement, bien sûr, assis bien droit sur son petit fauteuil, les mains bien droites également, et une aisance, je ne vous raconte pas, l'Ivan Lendl de la console, vraiment. Et on revient avec Matt Contour et avec Sandra qui est toujours là également. On va s'adresser à Sandra un petit peu quand même pour lui demander quelle est sa place un petit peu dans cet atelier dont on parlait tout à l'heure, là. Comment tu te trouves, c'est bonne ambiance ?
Super ambiance. Tout le monde on s'entend très bien et le lieu est super et de voir les uns les autres travailler, ça inspire beaucoup. Ça donne envie à venir plus souvent. Et
tu connaissais tout le monde à la base ou tu as fait des rencontres un petit peu par rapport à ça ?
En fait, je connaissais Angélique Raymond qui fait de la BD. C'est elle qui m'a fait connaître l'atelier et parce qu'elle venait juste d'en faire partie en octobre. Et tout de suite, j'ai adoré. Et donc, j'en ai fait partie une semaine plus tard. Voilà.
Eh ben, vite fait, bien fait.
Hein. Ouais.
Enthousiaste.
Très.
Et sur le plan de production, tu as des choses à nous dire, à nous annoncer, soit à venir, soit déjà faites.
Au début, je suis venue pour la photo et d'être entourée de dessinateurs aussi talentueux. C'est vrai que cette année, je me suis mis complètement dans le dessin. Et voilà, donc je continue, portrait, lieu. J'aimerais bien faire une série sur Montpellier. Et développer des choses en commun aussi, parce que l'atelier, c'est un lieu qui est bien fait pour ça. À faire des, par exemple, avec Matt, on a fait des ateliers de faisage d'amis, où on fait des amis en carton, et où les gens peuvent
vous
participer.
Vous vous palpez entre vous, vous faites des câlins.
Non, pas du tout, on fait des amis en carton.
c'est déjà ça.
Oui, c'est déjà ça.
Enfin, c'est une bonne idée. Donc, vous êtes toujours un petit peu dans l'inventivité. Il y a toujours aussi ce truc de vous motiver les uns les autres.
Chacun a son travail personnel, mais il y a aussi une idée de travail en commun qui est très intéressant. Par exemple, les fanzines de Matt ou des interventions, par exemple, aux Beaux-Arts, les ateliers de faisage d'amis dans les Arts se libèrent. Et il y a plein de choses à faire.
Donc, tu t'éclates.
Oui.
Y compris au studio, parce que tu es en train de faire un tableau qui fait à peu près la taille de Guernica. et qu'elle a attaqué dès le début, et voilà, et on cause et on cause, et pendant ce temps-là, on gratte de son côté, pareil. Quand Sandra parle, lui gratte de son côté. Voilà, on va passer un petit peu de musique avant de revenir à nos amis. Tu nous annonces quoi, Matt ?
Ah ben là, c'est un morceau de Courge, en gros.
Enfin.
Mais par contre, c'est pas nouveau. Hein. Là, c'est.
Hélas, oui, on a eu des problèmes. On a essayé de numériser un petit peu. Je crois que tu as essayé de numériser parce que tu es toujours dans ce système. On en parlait tout à l'heure hors antenne et à l'antenne également. C'est-à-dire toujours un peu un système les photocopies, les flyers, les fanzines, les cassettes, etc. Et la modernité extrême de notre radio nous interdit de passer les cassettes. Maintenant, hélas.
Et donc, ouais, c'est un vieux morceau qui, lui, est sur CD. Alors, c'est à 75.
Ça marche. On envoie la chose. Si Nico veut bien nous prêter un minimum d'attention, au lieu de parler avec ce gros enfoiré de Jamal à côté.
Bon, si c'est pas ce morceau-là, voilà, c'est pas grave.
Mais il va l'envoyer. Il va l'envoyer. Bien sûr qu'il va l'envoyer. Le morceau. C'est comme si on était parti. C'est du live, bien sûr, et ça s'entend. C'était à Florac, me disais-tu ?
Ouais, c'était à Florac, c'était en 97, un truc comme ça.
Et l'enregistrement n'était pas d'une qualité exceptionnelle, mais bon, c'était du live. On hésite toujours un petit peu par tes paroles, on ne sait jamais si c'est trop un premier, s'il y a un truc de naïveté un peu, ou un deuxième degré un peu tordu, certaines fois, on ne sait pas trop.
Bah ouais, non mais... Disons que c'est sur une première impression à Chaux, j'étais en Lozère là, et je voyais l'autoroute éventrer littéralement la terre. Quand on voyait sur les montagnes d'en face le sillon, la tranchée.
Ah, c'est marrant, j'ai souvent pensé ce truc-là aussi, effectivement, d'éventrer ou d'égorger presque, on pourrait dire, la terre, tu vois, avec croûtes, des trucs comme ça.
C'est l'impression que ça faisait, voilà. Ouais. Et après, bon, ça peut être aussi une chanson anti-autoroute. Et puis, c'est vrai que c'est tellement... Ça fait rigoler, quoi, tellement c'est... ça a l'air... ça a l'air naïf, comme ça, et tout. Donc, on peut rigoler de soi-même aussi, à ce niveau-là, quoi.
T'as un côté un peu cool aussi, certaines fois, quand même, malgré, je sais pas, on pourrait dire une espèce de contradiction, paradoxe entre un côté quand même assez punk et un côté quand même assez nature, la Lozère, tout ça, là. Et c'est quelque chose à quoi tu es très sensible également, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai, mais... Bon, moi je suis quelqu'un d'urbain, quoi, mais en même temps sensible à ce que peut causer l'humanité comme dégâts sur l'environnement et tout.
Tu es urbain, mais en fait, tu aimes bien faire des retours aussi, des fois. Tu aimes bien te retrouver à la campagne pour des festivals en plein air, des trucs comme ça. Retourner au Lozère, quand même, aussi, relativement fréquemment. Te faire des trips comme ça, quoi. Ça apparaît aussi dans tes BD, ça, de manière honnête, quoi.
Bien sûr.
T'es pas un pur urbain, quoi.
Non, mais... c'est vrai, je comprends qu'on puisse dire ça, baba punk, mais moi, j'aime pas... là-dessus, je reste assez punk, où pour moi, c'était une insulte, quoi. Enfin, disons, les babas ont... On employait ce mot-là de manière péjorative. Autant hippie, moi, j'ai jamais employé ça de manière péjorative. Et ça m'énerve beaucoup la manière dont c'est employé maintenant à tout bout de champ, sans arrêt. Tu vois les jeunes qui se traitent de... C'est l'insulte, c'est hippie, c'est... va mourir hippie, et, alors que c'est un très beau mot. Et puis c'était, moi je trouvais ça un très beau mouvement, et ça n'a pas duré longtemps du tout d'ailleurs. Mais, et les gens qui emploient ce mot en tant qu'insulte, ils connaissent même pas. Enfin, souvent, moi, ils m'ont dit, mais je sais pas ce que c'est, moi. Hippie, je traite, c'est juste une insulte passée dans le langage courant. Ils savent même pas ce que c'est, à quoi ça correspond. On a l'impression, et eux-mêmes le disent.
Ouais, ça a pris la connotation babacool, justement, qui est un peu péjoratif, quand même. Babacool, c'est un peu le mec qui... ouais, c'est cool, on a le temps, il n'y a pas de problème, on sait si, c'est ça. Voilà. Mm. Puis un certain type de fringue et tout. Aussi, quand même, un certain type de musique, et je plane, et je ne fais pas grand-chose et tout ça. Alors que le hippie, bon, c'est vrai qu'il y avait quand même à la base une certaine philosophie qui était d'ailleurs tellement... c'est vrai, naïve, et on peut le dire, enfin, tellement confiante dans les autres que ça ne pouvait que se casser la gueule de toute manière. Mais il ne devrait pas y avoir effectivement cette connotation très péjorative. Quoi. Voilà, on va revenir à la musique un petit peu, et la musique après Courge.
Ah ben, Parpaing, bah, par exemple, eux, c'est des gens qui vivent à la campagne. Dans un endroit qui était une communauté, j'ai retrouvé.
Là, avec une très jolie petite bassiste.
Ouais, et on m'a offert. Non, pas bassiste, elle joue du clavier et du saxo.
Avec clavier, pardon. D'accord.
On m'a offert un livre de Bizeau où il raconte son parcours des années 60, 68 et tout. Et à un moment, il parle des Margibouzeux de Fraissinous. Fraissinous, c'est une communauté qui existe depuis le début des années 70. Et ben, Parpaing, qui vivent là-bas, voilà, comme des margibouzeux hein, des années 70, ils font cette musique-là, voilà. Le morceau-là, il s'appelle Pigeon Jaune.
Let's go. We'll be right back. et Nico qui s'amuse, le petit coquin, à nous faire des émotions. Merci Nico d'être là, c'est très bien, comme ça de toute manière. On parlait un petit peu auparavant, bah justement tu évoquais le truc des communautés, tout ça, et c'est quand même un lieu, ce sont des lieux, les communautés, les squats et tout, où vous avez tendance quand même à vous retrouver assez fréquemment, bien sûr à chaque fois sans aucun esprit lucratif.
Ouais.
Parce qu'on ne peut pas dire qu'avec Courge, vous courriez après le fric.
Non. Et puis même quand on fait des fanzines ou on participe à des...
Enfin, vous avez une grosse connaissance quand même de tous les squats qui peuvent se trouver à Montpellier. Vous avez joué dans la plupart d'entre eux. Vous avez bonne connaissance aussi de pas mal de communautés, que ce soit en Ardèche, que ce soit en Lozère, que ce soit dans les Cévennes. Et c'est quand même des lieux où vous allez jouer, vous, de manière un peu privilégiée.
Ouais, je sais pas, enfin privilégié, oui.
Enfin, il me semble, je te pose la question. Ouais. C'est vrai que j'affirme comme ça, mais c'est une question.
Mm-hmm.
Où y allez-vous de manière privilégiée? Voilà, là, c'est une question.
Non, mais ouais, c'est juste, on se correspond bien comme esprit, voilà. Bon. C'est clair, ouais. Je sais pas, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde avec tous les gens que je connais des squats, que ce soit ici ou sur Toulouse ou ailleurs, un peu partout, ou à Amiens ou que ce soit. Enfin.
Et avec l'étranger, finalement, tu as des contacts un petit peu. Bon, tu parlais de la Suisse tout à l'heure, mais tu peux en avoir, je suppose, en Espagne, en Italie ou des endroits comme ça également, non?
Non, je n'ai pas tellement...
Pas trop d'échanges ou de choses comme ça?
Récemment, quoi, on s'est rencontrés avec des Suisses, mais pour la bande dessinée, pour des fanzines, des gravzines. Des gens d'ailleurs qui peuvent habiter, vivre dans des squats, faire des choses dans des lieux alternatifs et tout, et qui font de la micro-édition, qui font de la sérigraphie, voilà, on fait des choses en collectif, comme on peut faire nous à Montpellier.
T'as un côté quand même assez associatif aussi dans ta démarche, assez souvent de faire participer des gens, d'inviter, d'être invité, de fonctionner ensemble, quoi, et de ne pas fonctionner tout seul.
Ouais, c'est clair. C'est quelque chose qui se développe bien là, dans ce que je fais, de faire des pages en collectif. Depuis qu'on avait créé notre revue La Table à Montpellier, depuis quelques années, avec les gens du collectif Construct, là, qui ont le méchant de bête, et avec Velay, qui faisait partie de la table aussi, on aime bien faire tourner des planches, des pages de bande dessinée. Ça, c'est une pratique qui fait que la bande dessinée, qui est au départ quelque chose de solitaire, ça devient des moments de partage, de création collective.
De même que les fanzines, dont le burp, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, là, mais que tu fais paraître, sont également à chaque fois des associations de différents dessinateurs, de petits textes, de choses comme ça, mais où il n'y a pas qu'une personne ou deux personnes là-dedans. Quoi. On s'est aperçu qu'on était un peu juste sur la musique, donc on va envoyer de la musique. Et tu nous annonces...
Ah oui, c'est Faust. Faust, qui est un groupe allemand de krautrock des années 70, et qui a ressorti un album, un nouvel album, là, l'an dernier, je crois, un truc comme ça, avec du chant en français. Je ne sais plus s'il y a du chant sur ce morceau-là. Le morceau s'appelle Petit son appétissant. Thank you.
avec des yeux pétillants, ils sortent du haut-parleur.
Faust, qui effectivement chante en français, tu avais raison, une jolie petite chanson, presque du Anno Silvestre, on pourrait dire. Enfin, n'exagérons pas quand même. Mais ouais, surprise par rapport. Enfin, je me souviens d'un truc de Faust, j'en avais quasiment pas entendu.
Ouais.
Et à l'époque, c'était l'époque Kraftwerk et tout ça,
oui.
Ouais, effectivement, les 70, début des 80. Et c'était quand même nettement plus hard, là. Il revient un peu de la manière douce, on dirait un peu.
Ouais, bah c'est ce morceau-là, mais sinon, c'est souvent encore dans les nids de kraut plus instrumental. Il y a quelques petites ponctuations, quelques petits mots, mais ouais, c'est plutôt du... Ça reste, on va dire, dans le rock, je sais pas, planant, psyché... mais c'est pas du hard rock non plus, hein, quand même.
Certes, on est loin de Motorhead, de Metallica ou de groupes comme ça. Bon, Matt Contour également, c'est, et malheureusement pour lui, et on en parle un petit peu, et à chaque fois c'est un peu douloureux, mais c'est aussi quand même un truc un peu d'espoir que tu as fait repasser par rapport à ça. Tu l'as fait par rapport à certains assos, tu le fais dans tes BD, c'est quelque chose que tu ne caches pas, c'est-à-dire là, une sclérose en plaques quand même qui te pourrit conséquemment la vie. Mmh. Et puis voilà, tu as fait un bouquin là-dessus, une BD qui est sortie, je crois, il y a 2 ans, 3 ans, non ? Sur le...
Ouais.
Qui s'appelait L'autopsie d'un mort vivant, c'est ça ?
Bah en fait, ça, c'est le nom de l'ensemble de la série dans laquelle j'ai fait ce comics-là. Il y a eu d'autres volumes de cette série-là. Et là, c'est volume-là, il s'appelle Du nom de la maladie, donc sclérose en plaques, ouais. Et d'ailleurs, c'est pas évident à assumer. Hein, quand je suis sur des stands de festivals, j'avoue que celui-là, je le mets plutôt en dessous.
Oui, mais à côté de ça, c'est quelque chose dont je trouve que tu te tires quand même avec élégance. Quand même, ça pourrait être impudique. Et en fin de compte, je trouve que tu arrives à garder de la pudeur là-dedans par rapport à ça. C'est-à-dire à en parler,
ouais.
Effectivement l'extérioriser, puisque c'est quand même un des principes aussi, quand même pas mal de ton travail de BD aussi. C'est quand même aussi d'extérioriser des trucs, de faire passer des choses que tu ne peux pas faire passer d'une autre manière, à part peut-être en musique. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais trouver un moyen vecteur qui te permette d'extérioriser toutes ces choses que tu as en toi. Et là, bon, bah, tu le fais. La chose n'était pas évidente, mais je trouve que tu t'en tires avec honneur. Voilà.
Bon,
je ne sais pas quel est le sentiment des gens en général, quelle est la perception par rapport à ça.
C'est plutôt bien accueilli. Et puis, y a des gens que ça concerne, enfin, qui se sentent... Bon, après, là, sur cette maladie, c'est un peu particulier. Mais dans cette série-là, des autopsies, en général, c'est vrai que j'exprime des choses que j'ai besoin. Enfin, j'ai l'impression que ça m'aide d'en parler. C'est pour ça que ça s'appelle des autopsies, d'ailleurs. Autopsie d'un mort vivant, mais...
Il faut dire que c'est écrit auto, et plus loin psy, c'est-à-dire PSY, et puis que, bon, bien sûr, autopsie.
Et puis, voilà, quand j'ai rien de spécial, quand il se passe rien de particulier dans mon existence, je me sens pas obligé de faire un album de cette série-là. C'est vrai que je fais des albums dans cette série-là quand je ressens la nécessité. Et cette maladie-là, ça a été une circonstance qui a fait que j'ai eu besoin de raconter ce qui m'est arrivé. Ouais. Et puis j'ai fait une suite après. J'ai fait le Crocodile Comics 3. C'est la suite de celui-là, quoi. Parce que dans celui-là, il y a des choses que je disais qui étaient peut-être un peu vite définitives. Après, je me suis dit non, mais ceci, cela. Enfin, j'avais des choses à rajouter.
Mais t'as une évolution de ton attitude aussi, je suppose, par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est là encore en devenir permanent. Et la maladie est le même, mais aussi ta réaction par rapport à ça. Et les réflexions que tu peux avoir, et tu as tout un travail, je suppose, intérieur par rapport à ça, non ?
Ouais. Et puis, j'avais besoin, je voulais aussi parler de différentes solutions, entre guillemets, proposées. C'est pas des, il n'y a pas de solution qui existe pour cette maladie, mais il y a des pistes qui sont plus ou moins explorées. Il y a des médecines. Alternative, parallèle, enfin il y a des, mais on sait pas trop quoi se fier, voilà, donc j'avais aussi besoin de parler de ça, de cette recherche comme ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce truc finalement de autobiographique un peu, ça permet de parler de n'importe quoi de soi pour toi?
Ouais, bien sûr.
Tant que c'est avec style et toujours une certaine distance aussi, quand même, un peu une auto-ironie. Ou...
Ouais.
T'es jamais en train de chialer, t'es jamais en train de. Disons qu'au pire, il peut y avoir ce truc de questionnement qui revient quand même beaucoup chez toi dans tes BD. Mon Dieu, que vais-je faire, pourquoi, et des trucs un peu à la Crumb aussi, je trouve que ça revient souvent, ce truc-là.
Bah ouais, il y a le tour de dérision, même si on se présente en train de chialer, ça peut être assez marrant, quoi, justement.
Bien sûr. Bon, on va chialer ensemble en écoutant un peu de musique, parce qu'on est toujours à la bourre par rapport à la musique. Tu nous balances quoi, là?
Encore un morceau de courge, et celui-là, il vient du dernier disque.
La Calino Révolution, que nous avons fait entendre l'an dernier, c'est ça?
Ouais, de ce disque-là, ouais. Et le morceau, là, c'est Car Killer.
Alors, Car Killer, moi, c'est une histoire, bien sûr, qu'il faut tuer toutes les voitures, parce que les voitures sont pourries sur l'existence.
C'est un gars qui délire, hein. Il se prend pour un serial killer de voitures, mais c'est n'importe quoi.
Et puis, on va quand même préciser que dans les courges, c'est Stéphane qui est à la basse, qu'on a eu le plaisir d'avoir l'émission également, que c'est Lucky qui est à la batterie, Sergio au clavier, Matt à la guitare au chant, et Delphine au chant, et parfois même au tambourin. Et ça nous permet d'écouter Car Killer. Les courges avec Matt Conture au chant et qui nous démontre qu'il est polyglotte également.
Ouais.
Puisque he's a car killer.
Ouais, l'accent, Sandra, qui est new-yorkaise, elle aurait à y redire. D'ailleurs, elle me fait des fois des cours de prononciation. Mais... Comment tu dis ?
Craig-Keller.
Ah oui, j'en sais pas encore.
Cassandra, elle, est effectivement polyglotte. Et cette offerte, d'ailleurs, non pas à nous, mais à nous faire des traductions pour... Des traductions instantanées pour des interviews spéciales, certaines fois, où il faut être rapide et pas faire le plan Nelson Montfort, voilà. On revient un petit peu à Matt, donc on a un peu... Bon, on va pas s'étaler non plus là-dessus. Juste demander éventuellement dans le... C'est un peu un truc à... des hauts débats, un petit peu, quoi. Ça fait un peu ça, c'est-à-dire des périodes de rémission, des périodes où
c'est
dur et tout ça.
C'est une des formes de la maladie, mais avec des poussées, mais dans mon cas, non, c'est... moi, j'ai la forme progressive, secondaire, bon, donc ça... En gros, ça stagne, moi, plutôt. Ça progresse pas tellement.
Voilà. Ben, c'est pas mal que ça stagne, quand même, d'un certain côté. Non, autant que ça stagne, plutôt. Abat la progression, vive la stagnation. Voilà. C'est le principe de Matt Conture. Alors, on pourrait parler un petit peu aussi, quand même, de la maison d'édition que tu as suivie depuis le début et qui t'a suivi depuis le début, à savoir l'association.
Ouais, ben, c'est pas que je l'ai suivi, c'est que j'en suis un des cofondateurs.
Bien.
Bah voilà, mais à part ça, pas plus, hein, c'est tout. C'est juste, j'étais là quand on l'a fondé.
Ouais, on a fait... là par hasard ou
non,
tu
bah,
passais
Moi, quand je suis arrivé
initiateur, quoi,
voilà. À Paris, voilà, j'ai rencontré Manu et Stanislas. Et c'est eux qui avaient la volonté de monter une vraie maison d'édition. Ça aurait été que moi, j'aurais continué à faire... Non. En fait, pour être plus exact, moi, j'avais envie de faire des comics comme les comics underground à Merloc. Il n'y en avait pas en France des livres souples à ce format-là comme les comics. Ouais. Et depuis que l'association s'est mise à faire non seulement des comics, mais des albums souples de ce format-là, il y a énormément de maisons d'édition qui se sont mises à faire ça aussi. Donc,
c'est-à-dire que là encore, vous avez été un peu précurseur dans le domaine. Quoi.
Ouais, voilà. Bon.
Et ça remonte à...
Bah, ça, c'est.
Il y a une vingtaine d'années à peu près, non ?
Bah, exactement, 20 ans, puisque là, le week-end dernier, on a fêté les 20 ans de l'association. C'était au festival à Sierre, le Sismic Festival. On a fait une grosse exposition où Manu a demandé à tous les dessinateurs. De faire une
tu
deuxième...
Tu parles de Manu, il s'agit de quel
Manu, Jean-Christophe
ah bon,
Manu,
je
c'est...
Manu Larsenet.
C'est le fondateur principal, l'éditeur de l'association. Okay. C'est lui qui s'occupe de l'association. Les autres fondateurs ayant quitté l'association. Mais c'est lui le principal créateur à la base et, de cette maison d'édition. Et c'est lui qui le reste... Et là, il a goupillé un gros livre collectif avec tous les dessinateurs, enfin, presque tous. Chacun fait une planche par rapport à une autre page qu'il avait fait dans les débuts de l'association.
En référence à 20 ans, par exemple.
Ouais, pour les...
Voilà. Bon, on va fêter ça, nous aussi, à notre manière, c'est-à-dire en mettant un peu de musique. Voilà. Donc, prochain titre.
Alors, maintenant, c'est Chauchu. Alors, Chauchu, c'est le nouveau groupe de mon collègue Florian Clout, qui est le scénariste de ma bande dessinée, Christine Grindella, qui n'est pas encore paru et qui devrait paraître bientôt. Et il faisait un groupe qui s'appelait Anacarsis Clout, pour lequel j'ai dessiné la pochette. Et lui, il évolue dans un milieu de narco-punk anglais dans les années 90. Et puis là, depuis une dizaine d'années, il est dans le sud de la France. Et ils font des groupes qui sont souvent des évolutions du punk, mais c'est pas du punk street punk comme. Comme on en voit, c'est pas vraiment du punk rock, quoi. C'est plutôt c'est très créatif, quoi, ce qu'ils font. Et là, Chouchou, c'est avec deux chanteuses. Le morceau s'appelle Bang Bang.
Donc on va écouter ça, non sans avoir précisé auparavant qu'effectivement tu sévis, on peut dire également, dans l'illustration de pochettes d'albums. Pas mal, ça t'est quand même arrivé assez fréquemment. Et ne parlons pas, bien sûr, de toutes les affiches que tu peux faire aussi, et où tu es fort réclamé, je crois, quand même. On écoute ça.
Rebel, don't you feel hungry? Don't you think we should run away? And let this ghost down. One, two, get up and go. Rebel, don't you feel hungry? Don't you think we should run away? And let this ghost down. One, two, get up and go. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Don't you feel hungry? Don't you think we should run away? And let this ghost town. One, two, get up and go. Rebel, don't you feel hungry? Don't you think we should run away? And let this ghost town. One, two, get up and go. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Bang, bang, you wanna know how to start to clap, to clap. Taka, 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 oh yeah. Taka, 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 oh yeah. Taka, 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 oh yeah. On my way to absolutely nowhere. On my way to absolutely nowhere. Absolutely nowhere. On my way to absolutely nowhere.
Nous sommes encore là pour un bon petit quart d'heure grâce à la bienveillance de Nico et à l'antenne également qui nous prête ses ondes, ses fauteuils et sa bière. Non, la bière, c'est l'épicier d'à côté. Peu de choses à dire maintenant, finalement, puisqu'on a fait le tour avec une essence déconcertante. On dira qu'on a fait le tour, allez, de Matt Conture. Non, pas du tout. Il y avait également ce fanzine que tu faisais paraître et le problème étant toujours aussi de savoir où trouver tes fanzines. Mm-hmm. Je sais très bien la réponse que tu vas me donner aux méchantes bêtes. Mais le méchante bête, rue du Plan de l'Olivier, il faut quand même aller le chercher, il faut le trouver et tout ça. Sinon, à part le méchante bête, où est-ce qu'on peut trouver?
Bah, notre atelier, là, entrée libre, qui est derrière le Rebuffy. Là.
De Rebuffy.
Et puis sinon, tu sais, des burbes, j'en mets quand même chez Mika, à la librairie de bande dessinée, enfin dans les lieux de librairie là, et de centre-ville de bande dessinée, j'en mets, je le mets quoi. Voilà.
Donc on peut les trouver. Donc l'aventure ouais. continue également.
Mmh. Ouais, ouais.
Rien à voir avec Construct là.
Non, non, Burp c'était au départ mon fanzine solo. Après la table, c'était la sortie de table, Burp. C'était un solo. Et puis après, petit à petit, il y a des gens
de la table qui se sont... Ramdoula le prochain. Pardon.
Ouais, il y a Velay quoi, qui faisait partie de la table aussi, qui est dans Burp. Et qui a sorti son premier album à l'association, lui, l'an dernier, qui s'appelle Fumetti d'un fumiste.
Bon, bref, on a compris, t'arrêterais jamais. T'arrêterais jamais tes cassettes pourries, tes petits fanzines, tes fly et tes trucs comme ça. Quoi. C'est ton fonctionnement, c'est ce que tu nous as expliqué la dernière fois. Et un fonctionnement dans lequel tu te retrouves, toi, complètement. Enfin, tu t'es très à l'aise là-dedans.
Bah ouais, je sais pas, c'est faire ce qu'on a envie de faire, dans les moyens qu'on a à disposition localement. On n'a pas besoin d'aller, à Perpète-les-Oies ou payer des machins, des studios, des trucs.
Je sais pas, moi je fais quand même les choses au CD.
Ouais, mais parce pour que c'est un copain,
D'ailleurs, signalons au passage que les CD de Courge de Matt Contour, c'est, vous avez à l'intérieur le disque, on voit bien qu'il a été dupliqué comme ça, et il y a écrit de la main de Matt Courge, comme ça, dessus, et voilà.
Ouais, ou c'est Rico qui le marque, parce que c'est lui qui fait les copies.
Rico, d'accord.
C'est lui qui fait les fly de l'Atelier du Nord, en ce moment, Rico.
Un peu de musique.
Ah ouais, ok.
Et beaucoup de musique quand même.
Et alors, maintenant c'est Movie Star Junkies, un groupe de l'Alliance de l'Est, là, de Strasbourg, tout ça. Et ça s'appelle Clivage, le morceau. We'll be right back.
Vous êtes encore et toujours sur nos ondes magiques, c'est le 93.9, la radio qui respire et qui vous offre ce soir Matt Conture, c'est un honneur. Peut-être une dernière question, je voulais savoir un peu quelle était ta situation, ta position un petit peu par rapport à des gens, disons, qui sont un peu dans ta mouvance, tu vois, de style Trondheim ou des gens comme ça, mais qui en même temps, on pourrait dire, ont un peu cédé aux sirènes peut-être de consensualité, notoriété, ou qui font qu'ils sont quand même nettement plus soft dans leurs propos la plupart du temps.
Ouais. Moi, je suis autodidacte comme ça, et je fais des trucs sans avoir tellement à l'esprit la préoccupation, enfin que ça puisse bien passer pour.
Mais t'as aucun calcul, toi, de toute manière, ni qu'il soit financier ou autre, tu t'es pas un calculateur.
Ouais. Et voilà. Je pense qu'ils ont. Enfin, je sais que Trondheim, par exemple, il a suivi une école. Une école qui permet de commercialiser. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais voilà quoi.
Tu veux dire qu'il a suivi. Enfin, qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Mais toi aussi, tu sais ce que tu fais, mais c'est pas tout à fait la même chose, d'accord. Un peu de musique, parce qu'on l'avait dit, il faut se dépêcher maintenant si on veut écouter toute la belle musique que tu as apportée. Tu nous annonces quoi, donc, le prochain?
Ah ouais, là, c'est Courge. C'est un morceau du live, mais j'ai pas la feuille où il y a les titres dans le disque. Il manque une photocopie.
C'est pas grave, on dira que c'est du Courge et que ça s'appelle X.
Une chanson sur l'autoroute, sur le chantier de l'autoroute en Lozère. Une chanson qui date de 92. 1990. C'est à l'époque. We'll be right back.
Et on a enchaîné avec les grandissimes Seeds, Rocky Erickson à l'époque au...
Non, c'est Sky Saxon.
Sky Saxon, pardon. Au top de ses capacités intellectuelles, ce qui n'est pas tout à fait le cas maintenant quand même, malheureusement.
Non.
Mais bon.
C'est clair. Non, pas d'accord. On fête les 1 an de sa mort, le 25, au Subsonic.
Et je ne savais pas qu'il était mort. C'est pour ça qu'il y a... Ah, c'est pour ça qu'il y a ce truc au sub, d'accord. Ah, moi, je voyais que c'était une commémoration comme ça. C'est vrai qu'en général, quand on commémore, c'est plutôt pour les morts. Donc, on disait que ce passera au Subsonic, qui est derrière la gare, rue du Général Riouge. Et c'est très intéressant. Et c'est le 25 juin. Et il y aura effectivement un film totalement, je crois, la plupart inédit, avec pas mal de témoignages, extraits de concerts et autres. Et qui parlera des Seeds. Voilà.
Ouais, et puis il y a la sortie de notre fanzine Burp, avec pas mal de pages en rapport avec Sky Sex, avec les Seeds. Ouais.
Et donc on pourra trouver ça d'une part, on vous l'a dit tout à l'heure, on ne le répétera jamais assez, aux Méchantes Bêtes, où il y a un concert demain soir à 20h, c'est rue du Plan de l'Olivier, dans le Vieux-Montpellier. Et également, vous pourrez trouver le Burp de Matt, non seulement à cet endroit-là, mais chez Mika, au milieu de la rue Saint-Guillain, le petit magasin sur la droite, et puis dans pas mal de librairies. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À signaler un atelier de sérigraphie les 5 et 6 juillet, je crois.
Ah ouais, c'est la tournée de sérigraphie de la Fanzinothèque de Poitiers. Et là, c'est un gars qu'on connaissait à Toulouse, là, Toff, qui s'occupe des sérigraphies là-bas, à Poitiers, à la Fanzino. Et là, ils font une tournée de sérigraphes, une tournée avec des machines, du matériel.
Donc,
pour
ça, ça se passe où, ça?
Et bien là, à Montpellier, ils vont passer le 5 et 6 juillet à notre atelier, entrée libre.
D'accord. De rue Bail, c'est juste derrière rue Buffy. Merci.
Rue du Bail. Ouais.
Rue du Bail, pardon. Merci à Nico d'avoir été à la technique ce soir avec ses grands doigts et son œil futé. Merci à Sandra de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait cadeau d'un superbe dessin que nous allons encadrer pour mettre à la radio. C'est une petite merveille, il a enthousiasmé tous les autres.
Avec plaisir.
Merci. Merci à Madame Plaza de nous avoir écoutés avec patience, peut-être jusqu'à 7h tardive. Merci à vous. Et puis un grand merci à Matt Conture de s'être déplacé ce soir. Merci Matt. Pas de concert de Courge au fait à annoncer particulièrement ou...
Non, pour l'instant, non.
Bon, mais ça ne saurait tarder, guettez ça dès que vous voyez Courge avec des petits dessins bizarroïdes au-dessus. C'est un concierge de Matt Conture. Merci Matt et à l'an prochain.
Ouais, entendu. Bonsoir.
Ciao. Bonsoir.